Bonjour, c'est Axel Le Tarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous. 112 morts et 760 blessés hier à Gaza. La distribution alimentaire vire au chaos avec des camions de ravitaillement pris d'assaut dans le nord de Gaza par une population affamée. S'ensuit une bousculade et des soldats israéliens pris de panique qui tirent dans la foule. Après des mois de guerre, l'ordre civil est en voie d'effondrement à Gaza. La population est affamée, distribuer de l'aide dans ces conditions, c'est très dangereux, a expliqué la présidente de Médecins Sans Frontières. Un bain de sang qui suscite l'indignation. Joe Biden enjoint Benjamin Netanyahou d'organiser une trêve pour le Ramadan qui commence dans 10 jours. Et maintenant, à quoi faut-il s'attendre? Jusqu'où veut aller Israël à Gaza? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Gaza, quand la famine mène au bain de sang ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Georges Malbruno. Vous êtes grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient au Figaro. Je cite votre article « Gaza, une trêve pour le Ramadan est en vue ». Et je rappelle votre livre « Le déclassement français » écrit avec Christian Chenot. C'est aux éditions Michel Lafon. Armelle Charrier, vous êtes éditorialiste en politique internationale à France 24. Yves Bourdillon, journaliste international en charge du Proche et Moyen-Orient et de la Russie au journal Les Échos. Votre article du jour en Iran, des élections législatives verrouillées. Et enfin, Slimane Zeghidour, vous êtes éditorialiste en politique internationale à TV5 Monde. Merci de participer à cette émission en direct. D'abord, Slimane Zeghidour, peut-on dire plutôt ce qui s'est passé? Joe Biden lui-même, qui n'est pas le moins bien renseigné, a déclaré « En fait, il y a deux versions contradictoires sur ce qui s'est produit. Je n'ai pas encore de réponse. » C'est très difficile de savoir ce qui se passe à l'intérieur de Gaza.
Je ne crois pas que Joe Biden ne soit pas bien renseigné sur ce qui se passe. Le problème, c'est qu'il est gêné. Il est, comme on dit en Chine, il est à cheval sur un tigre. C'est-à-dire, il donne des armes à Israël, tout en lui demandant de ne pas les utiliser contre les civils. Donc je comprends sa mauvaise conscience.
Alors Joe Biden, c'est-il, mais nous, alors, que s'est-il passé?
Alors nous, nous savons. Alors, vous le savez, l'Égypte d'un côté et Israël de l'autre empêchent la presse étrangère et même nationale d'aller à l'intérieur de Gaza pour travailler.
Donc les seules images que nous avons. TV5 Monde, vous n'avez pas d'accréditation, vous ne pouvez pas rentrer à Gaza pour voir faire votre travail de journaliste.
Absolument pas, pas plus que d'autres chaînes. La seule chaîne qui travaille et qui couvre en temps réel 24 sur 24 de façon clinique ce qui se passe à Gaza, c'est Al Jazeera. Or les images d'Al Jazeera, pour des raisons, plusieurs raisons, ne sont pas accréditable et jugé fiable.
Néanmoins, parce que c'est une chaîne arabe donc qui est jugée
depuis le Qatar,
voilà, qui est jugée à avoir un biais, comme on dit.
Oui, mais les faits factuellement, les images sont là. Alors sur ce qui s'est passé hier, il y a des images de drones israéliens, il y a des images aussi prises par.
Donc on a 38 camions de ravitaillement qui arrivent dans le nord de Gaza, qui arrivent d'Israël.
Donc pilotés par des Israéliens, mais les Israéliens n'ont pas coordonné cet acheminement salutaire d'aide, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, ne l'ont pas coordonné avec les Palestiniens, ni avec les ONG, ni avec l'ONU. Ce qui aurait été une prise en charge beaucoup plus rationnelle et qui aurait permis une distribution beaucoup plus efficiente.
Et donc les Gazaouis qui sont affamés parce qu'ils n'ont rien à manger.
Par la rumeur que des camions arrivent, il fait nuit, ils foncent vers les camions, les Israéliens.
4 heures du matin.
4 heures du matin, n'est-ce pas? Les Israéliens, l'armée israélienne tire dans le tas. On est dans l'obscurité. Je veux dire, il n'y a pas d'éclairage public. Donc, dans une foule mouvante, dans un tsunami, dans les cris, les aurores, il y a des images qui ont été filmées par des Palestiniens où on entend des hurlements, des cris, et puis le staccato des tirs très, très forts dans la foule. Autrement dit, ce qu'il faut rappeler, c'est que toute puissance occupante dans le droit international est responsable de la sécurité des populations qu'elle contrôle.
Georges Malbruno, vous
vouliez... Oui, dans cette affaire, c'est assez symptomatique, vous en parlez tout à l'heure, du chaos, du vide sécuritaire auquel on va assister lorsque les armes vont se taire. Parce que les armes vont se taire, le Hamas ne va pas être anéanti, mais il va être quand même sérieusement dégradé. Et qui va assurer la sécurité? Qui assure la sécurité de ce convoi? Les Israéliens, de manière assez confuse, ont dit des contractants privés. Alors j'avoue que je suis assez perplexe. Alors est-ce que ce sont des gens de Gaza qu'ils ont payé pour assurer la sécurité? Mais là, on est vraiment au cœur de la problématique qui sera celle des semaines et des mois qui viennent lorsqu'il y aura un cessez-le-feu. Hein, parce que là, il y a un vide sécuritaire. Parce que, évidemment, l'autorité palestinienne ne veut pas de la police du Hamas qui est encore là. Hein, parce qu'il ne faut pas, se le cacher.
Elle ne veut pas que ce soit la police du Hamas qui accueille les camions. Qui gère la logistique.
On peut le comprendre, mais elle ne veut pas non plus que ce soit l'autorité palestinienne qui n'est plus à Gaza, mais qui pourrait y revenir, et donc qui pourrait prendre en charge tout ça. Donc qui? Et donc là, il y a un vide sécuritaire, et donc ça donne lieu à ces scènes auxquelles on a assisté.
Le croissant rouge ne pourrait pas, la Croix-Rouge
enfin, non, le croissant rouge ne peut pas sécuriser. En plus, ça n'a pas été fait, comme Slimane l'a dit, en coordination. Ça doit se faire en coordination.
Ils n'ont prévenu personne.
Israël doit coordonner l'acheminement d'aide humanitaire. Là, ils ne l'ont pas fait. Donc, il y a un élément qui a manqué. Donc, après, il y a eu effectivement ces mouvements de foule. Je pense aussi que ça révèle une fébrilité des soldats israéliens qui sont sur le terrain et qui ont vu arriver cette foule, évidemment, probablement en colère, affamée, etc. Et donc, ils ont réagi, ils ont tiré.
Dans la panique, ça veut dire quoi? Ils sont pas maîtres chez eux du tout, alors.
C'est pas chez eux.
Enfin, oui, non, mais je veux dire, ils contrôlent pas le terrain.
Ils ne tiennent pas le terrain. Voilà. C'est ça la vraie leçon qu'il faut tirer. Mmh. Mais depuis un certain temps, parce que on le voit, on a des contacts sur place. Lorsqu'ils ont attaqué, par exemple, l'Institut français de Gaza, immédiatement après, le Hamas est venu derrière pour vérifier qu'il n'y avait pas eu encore des pièges qui étaient restés, etc. Donc ils avancent, mais ils ne contrôlent pas le terrain, parce que le terrain est grand, et donc il y a un vide sécuritaire, et donc c'est une des faiblesses, effectivement, aujourd'hui, de l'armée israélienne, qui a donné des coups sévères au Hamas, mais qui ne l'a pas anéanti, loin s'en faut.
Et qui, en tous les cas, n'arrive pas à établir un ordre et une discipline. Armel Charrier, ces camions sont pris d'assaut par des Gazaouis affamés. On sait qu'il y a des enfants qui meurent de faim. Le Programme alimentaire mondial, qui dépend de l'ONU, parle du pire niveau de malnutrition infantile au monde dans cette bande de Gaza.
Oui, et je crois que c'est ça, en fait, que raconte ce qui s'est passé dans cette nuit. C'est finalement la qualité de vie aujourd'hui des Palestiniens. Et en fait, il faut avoir comme dézoomé. C'est-à-dire que historiquement, tout siège est le plus compliqué à vivre pour une population. Et finalement, on a assisté à un siège. Donc après, il faut se rappeler juste, par exemple, quand à Paris, il y avait la Commune à l'époque. On avait découvert qu'on faisait des élevages de rats, par exemple. Et on mangeait aussi les racines, parce qu'il fallait bien manger ce qu'on avait. Donc là, si vous le remettez sur Gaza, vous vous retrouvez dans la même situation. Et vous avez des enfants, des hommes, des femmes qui vont aller se nourrir de feuilles. On a des témoignages sur le fait qu'on va manger des feuilles de figuier, on va manger des feuilles qu'on va trouver. On se retrouve effectivement sans rien à manger. Sans rien à manger, sans rien à boire, ça c'est aussi le problème, c'est qu'il faut avoir un peu d'électricité pour avoir aussi de l'eau potable, parce que sinon vous n'avez pas d'eau potable. Et vous avez en plus des bâtiments qui sont à plus de 60% qui ont été bombardés. Donc ça veut dire que vous n'avez plus de lieux d'habitation sécurisés, vous n'avez plus évidemment d'hôpitaux ou de qualité de soins, mais derrière, vous avez des capacités de faire du pain, d'avoir des boulangeries. L'acheminement de la farine est compliqué. Puis même quand vous avez des boulangeries qui peuvent encore fonctionner parce que beaucoup ne fonctionnent plus, même quand elles peuvent encore fonctionner, vous n'avez pas forcément l'énergie qui permet en fait de remettre tout ça en marche. Donc ça vous donne en fait la mosaïque d'une vie quotidienne qui est totalement détruite. Et donc dans ces conditions, vous imaginez bien que lorsque vous avez l'appel de nourriture qui arrive quelque part, forcément, on imagine que tout le monde qui est informé court, parce que c'est comme à n'importe quel moment, c'est ce moment-là où on peut se nourrir. Donc on arrive et on court. Et vous avez ce décalage forcené entre finalement une population qui a besoin de ça et des soldats israéliens qui, quelle que soit la circonstance dans laquelle ils sont, sont amenés à devoir contrôler une foule qui est considérée par eux comme étant hostile, puisque ce sont des Palestiniens. Donc on voit bien la panique immédiate qui peut se mettre en place et l'imbroglio invraisemblable dans lequel on est, qui arrive à un schéma apocalyptique parce que vous arrivez à des morts. Et que derrière, que ce soit des morts parce qu'il y a eu des tirs de soldats israéliens ou que ce soit des morts parce que la foule a piétiné elle-même des personnes, la réalité, elle reste là. Et du coup, c'est comment est-ce qu'on coordonne, comment est-ce qu'on fait dans ces circonstances. Et on se rend compte que les Israéliens sont dans un piège épouvantable parce qu'ils ne devaient pas imaginer que la guerre durerait aussi longtemps. Donc, c'est-à-dire qu'ils auraient des soldats qui devraient travailler aussi longtemps, être fatigués, être dans ces conditions-là. Et en même temps, vous avez une population gazaoui qui est impactée d'une façon apocalyptique.
Qu'est-ce que ça dit de la situation, Yves Bourdillon, quand même faire organiser des livraisons, distribuer de l'aide alimentaire, je cite la patronne de MSF, hein, distribuer de l'aide dans ces conditions, c'est très dangereux. On en est réduit à faire des largages, c'est très humiliant d'ailleurs, de nourriture par avion.
Tout simplement, une armée n'est jamais équipée pour distribuer de l'aide alimentaire. Elle est conçue, entraînée pour prendre du territoire en détruisant des ennemis. Donc là, brusquement, ils se retrouvent, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, dans la nuit, en train de devoir distribuer une aide alimentaire. Ils sont usés par ces mois de combat. Ils ont devant eux une foule hostile, même si elle n'est pas dangereuse, en fait, mais ils paniquent. Donc oui, ce n'est pas leur métier. Et le problème, c'est que s'il n'y a pas de coordination, c'est-à-dire qu'il leur faut des interlocuteurs, non seulement l'ONU et ils n'ont pas cherché visiblement, ça a été une faute, à coordonner, à s'assurer qu'il y avait quelqu'un qui pouvait prendre le relais, c'est qu'ils n'ont pas non plus d'interlocuteurs palestiniens. C'est-à-dire que il y a un vide sécuritaire qu'ils ont créé, qui est sans le Hamas, parce qu'évidemment, ils ne vont pas travailler avec le Hamas. L'autorité palestinienne ne veut pas travailler avec le Hamas, mais elle n'est pas sur place. Donc ils n'ont pas d'interlocuteurs. Ils ont essayé d'avoir quelques notables palestiniens qui ne veulent pas non plus travailler avec les Israéliens, on peut les comprendre. D'abord parce que ce sont des ennemis, des envahisseurs, pour les gens qui vivent à Gaza, et puis qu'ils risqueraient aussi d'être tout simplement exécutés par des gens du Hamas qui sont encore dans le coin. Donc c'est un imbroglio assez considérable, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver d'interlocuteurs palestiniens. Et au passage, la presse israélienne était assez sévère depuis hier sur le fait que ce chaos montre la faiblesse du plan de Benjamin Netanyahou sur l'après. Enfin, c'est une illustration. On peut se dire que ça sera encore pire après la guerre, en tout cas.
Alors, plus de 110 Palestiniens sont donc morts hier à Gaza. Des tirs de soldats israéliens et un important mouvement de foule ont semé la panique lors d'une distribution alimentaire. Toute la journée, les condamnations venues du monde entier se sont multipliées, ainsi que les appels au cessez-le-feu. Mais Benjamin Netanyahou ne veut pas en entendre parler pour l'instant. Sujet de Magali Lacroze et Christophe Roquet.
Dans le nord de Gaza, les morts et les blessés affluent vers les hôpitaux de la région. Que s'est-il passé hier matin dans l'enclave palestinienne? Une distribution d'aide alimentaire s'est transformée en cauchemar.
Nous avons appris que l'aide humanitaire serait larguée au niveau du rond-point Naboulsi. Alors nous y sommes tous allés. Tous les gens du nord de Gaza sont arrivés au même moment. Et là, les tanks israéliens nous ont pris pour cible.
On voulait tous récupérer ces colis de farine. On allait chercher l'aide alimentaire et ils nous ont tiré dessus. Les gens tombaient et ils continuaient à tirer.
Ce sont des menteurs. Ils ont dit « nous avons apporté de l'aide, mais nous avons payé cette aide de notre sang ».
Pendant que Gaza compte ses victimes, au moins 112 morts et 760 blessés, annonce le Hamas. L'armée israélienne donne sa version des faits, illustrée par ses propres images de drones. Pour Israël, la foule de Gazaouis affamée courant vers les convois humanitaires menaçait l'armée, qui finit par reconnaître des tirs.
Nos tanks étaient déployés pour sécuriser le convoi. En voyant que les Gazaouis se bousculaient et se piétinaient, nous avons essayé de disperser la foule en tirant quelques tirs de sommation. Mais les centaines de personnes sont devenues des milliers. La situation était hors de contrôle, alors nous avons décidé de partir.
Après plus de 5 mois de conflit, alors que les accusations se multiplient contre une armée israélienne qui n'épargne pas les civils à Gaza, ces images, présentées comme celles du drame, font le tour du monde et provoquent l'indignation générale. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité est organisée à l'ONU le soir même.
La situation humanitaire pour la population civile à Gaza empire jour après jour. Nous sommes confrontés à un désastre sans précédent.
Pour l'amour de Dieu, arrêtez de tuer les civils, les femmes et les enfants.
Pas de nouvelle résolution, mais une même volonté. La communauté internationale exige des réponses.
Profonde indignation face aux images qui nous parviennent de Gaza où des civils ont été pris pour cible par des soldats israéliens. J'exprime ma plus ferme réprobation envers ces tirs et demande la vérité, la justice et le respect du droit international.
Nous vérifions tout ça en ce moment. Il y a deux versions contradictoires de ce qui s'est produit. Je n'ai pas encore de réponse.
Et quand on lui demande si cela complique les négociations pour la paix...
Je crois bien que oui.
Ça ne pouvait pas plus mal tomber pour Washington. À la veille d'une discussion avec l'Égypte et le Qatar pour un cessez-le-feu au Proche-Orient. Quelques jours plus tôt, Joe Biden, grand allié des Israéliens, affirmait qu'une trêve pourrait avoir lieu dès lundi. De l'aveu du président, c'est désormais peu probable. Pendant ce temps-là, l'offensive israélienne continue, bombardant hier encore le nord de Gaza, la ville de Gaza, mais aussi le centre et le sud de l'enclave, poussant toujours plus de Gazaouis vers Rafah, à la frontière égyptienne, où le premier ministre Netanyahou a promis de lancer une nouvelle offensive.
Alors, question téléspectateur Armel Charrier, que pourrait faire le Hamas pour que les Palestiniens ne meurent pas de faim ?
Alors, c'est le grand reproche que fait Israël au Hamas, c'est de dire qu'il ne fait rien pour la population palestinienne et qu'il s'en sert comme bouclier humain. Alors, dans la réalité, qu'est-ce que peut faire le Hamas ? Alors, vous avez une branche qui est politique, qui est au Qatar, qui, elle, peut négocier. Vous avez une branche militaire qui est sur place, qui, elle, fait la guerre, qui a de l'armement, qui a des hommes, qui sait faire fonctionner, en fait, tout un système d'argent, hein, puisque pour armer, pour faire fonctionner ces soldats, pour mettre des capacités de combat, c'est que vous avez des logistiques sur place. Il faudrait qu'ils mettent une partie de leur logistique à disposition d'une population, ce qu'ils ne feront pas, parce qu'ils sont en état de guerre, et donc du coup, ils réfléchiront comme une armée. C'est en fait toute la difficulté, elle relève là. Qu'est-ce que pourrait faire réellement le Hamas ? Ce serait dans ce cas-là d'avoir une vision politique, et dans une vision politique, d'arriver au moins à discuter d'où est-ce qu'on met des corridors d'aide humanitaire et des corridors d'aide pour la population. Et ça voudrait dire rentrer dans une discussion avec les Israéliens, ça voudrait dire rentrer dans la discussion avec l'échange des otages et des prisonniers. Et c'est en fait certainement une étape encore à franchir, mais sur laquelle ils n'en sont pas encore là.
Slimane Zeghidour, est-ce qu'on peut se demander ce que cherche Israël en restant ainsi, en continuant sa guerre à Gaza ? Donc le Gaza est détruit maintenant, il n'y a plus rien, et le peuple est affamé. Quelles sont les motivations d'aller encore plus loin dans la répression ?
Écoutez, les deux objectifs qui ont été proclamés d'emblée par Benjamin Netanyahou, ce sont deux objectifs d'ailleurs contradictoires, c'est détruire l'infrastructure militaire et politico-administrative du Hamas et libérer les 130 ou 140 otages et récupérer les corps de ceux qui sont morts. C'est cela les deux objectifs. La réponse du Hamas, c'est si vous voulez nous détruire, vous détruirez les otages avec nous. Si vous voulez récupérer les otages, il faut un cessez-le-feu définitif, auquel cas vous récupérerez vos otages. Néanmoins, il y a eu des tas de déclarations. Je ne parle pas des déclarations des extrémistes, suprémacistes, mais de gens responsables du gouvernement qui ont donné à peu près le ton. Vous avez, dès le lendemain du massacre de 7 octobre, le chef d'état-major Yoav Gallant qui dit « Nous sommes retournés en 1948, c'est-à-dire le début, la scène primitive du conflit. Nous allons couper l'électricité, l'eau, le gaz, les médicaments. On a affaire à des animaux. » Vous avez l'ancien chef du Shin Bet, qui est actuellement ministre de l'Agriculture, Avi Dichter, que Georges, je crois, connaît, qui a déclaré ouvertement que 1923, c'est le début de la Nakba de Gaza. C'est-à-dire l'expulsion.
Expulser les Gazaouis de Gaza et recoloniser Gaza. Certes, c'est... Non, mais est-ce que certains Israéliens, et peut-être influents, on caresse cet espoir.
Il y a des organisations de colons qui ont déjà des plans virtuels de reconstruction de Gaza. Ils proposent des studios ou des villas au bord de la mer. Je reviens à 1948. 1948, C'est un traumatisme pour les Palestiniens parce que ça a été l'expulsion de la majorité d'entre eux, la destruction de 450 villages. Et pour une partie des Israéliens, pour un courant extrémiste israélien, c'est une frustration. C'est de ne pas avoir fait tout le boulot en 1948 et expulser tout le monde.
Georges Malbruno, certains responsables israéliens, y compris peut-être au gouvernement, rêvent d'expulser et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de Palestiniens à Gaza et de reconquérir ces territoires. Non, mais ça pourrait expliquer ce qui ressemble de loin à un acharnement sur ces territoires.
Qui en est qui en rêve, je suis d'accord avec vous, mais... Comme l'a dit d'ailleurs un jour, au début de lancement du processus de paix, un proche de Shimon Peres, que des Israéliens rêvent, que les Palestiniens rêvent de nous mettre à la mer. Très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que derrière ces rêves ou ces déclarations, comme vous le dites, assez martiales des Israéliens, il y a des négociations qui ont lieu depuis déjà des mois. Et on discute justement de ce dont vous parliez, d'acheminer de l'aide humanitaire, de rouvrir les boulangeries. Et il y a l'aspect militaire, mais il y a aussi l'aspect politique, parce que ce qui manque à Israël aujourd'hui, c'est quelques trophées militaires, parce qu'ils n'ont pas eu ni la tête de Mohamed Deif, le patron de la branche militaire du Hamas, ni celle de Yahya Sinwar, l'architecte de l'attaque du 7 octobre.
Donc ils ne peuvent pas partir sans avoir mis la main sur les quelques chefs.
Il faut savoir que en coulisses, dans ces négociations qui ont lieu, parrainées quand même par Bill Burns, le patron de la CIA, qui a fait plusieurs déplacements à Paris, à Doha, etc., Israël suggère, propose, finalement, que Sinwar et Deif soient pris en charge par le Qatar. Donc, parce qu'on se rend compte aussi que les objectifs militaires fixés par Israël au début de la guerre ont été trop élevés et qu'il faut, effectivement, il faut à un moment donné que Benjamin Netanyahou donne l'impression à sa population, qui reste traumatisée, qu'il a gagné. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il a gagné. Et donc, mais on va négocier, ils vont négocier. Je pense qu'il y aura une trêve pour le Ramadan parce que Joe Biden le veut et Netanyahou aussi. Et le Hamas a aussi quand même intérêt à avoir une trêve. Mais cette trêve, ce n'est une trêve de 40 jours, mais qui serait suivie de deux autres séquences de 40 jours chacune qui permettraient justement de passer du militaire pur au militaro-diplomatique. Alors, rouvrir les boulangeries, faire remonter les gens du Sud chez eux au Nord. Israël dit, moi, je ne veux pas des jeunes, des gens de 19 à 50 ans, parce que je ne veux pas que le Hamas recrée ses positions. Mais voilà, parce qu'il y a cinq mois d'activité militaire, mais il y a des gens qui, en coulisses, effectivement, réfléchissent et disent « il faudra passer à autre chose ». Mais il y a des discours encore martiaux de la part des Israéliens et du Hamas aussi. Je pense que proposer à Yahya Sinwar et à Mohamed Deif d'aller dans une belle résidence à Doha, au Qatar, je pense qu'ils vont dire non.
– Yves Bourdillon, alors, ces chiffres sont-ils crédibles? Le Hamas dit le nombre de martyrs est de plus de 30 000. Il y a 30 000 morts. Alors d'abord, est-ce que c'est être propagandiste que de reprendre les chiffres du Hamas? Et si ce chiffre est crédible, est-ce qu'à un moment, il ne devient pas embarrassant eu égard aux 1 200 morts lors du massacre du 7 octobre? Et il y a un moment, est-ce que la pression internationale pourrait faire de dire, bon, maintenant, il serait, vous avez été vengé au regard de ces deux chiffres?
Alors, vengeance, c'est pas du tout comme ça que les choses peuvent être prises. C'est plutôt quand quelqu'un vous attaque, avec en plus des crimes de guerre, il est légitime d'essayer de le détruire militairement, mais pour autant, ce n'est pas légitime d'être totalement indifférent au nombre de victimes collatérales. Donc, le chiffre, pour répondre à votre question, le chiffre du Hamas, évidemment, tout ce qui vient du Hamas est à prendre avec des très grosses pincettes. Surtout, on se souvient de la manière dont les chiffres sur un hôpital où ils avaient annoncé 800 morts, et puis finalement, il s'avère qu'il y en avait beaucoup moins. Donc, il ne faut pas du tout... On peut citer les chiffres du Hamas, tout en précisant aussitôt, c'est le Hamas. Cela dit, il semble plausible que l'ordre de grandeur semble à peu près celui-là, parce qu'au vu des destructions, quand même, vous citiez tout à l'heure 60% des immeubles détruits, les agences de renseignement occidentales disent que c'est un ordre de grandeur plausible.
Alors, Américains ont des chiffres?
Alors, il se trouve que Lloyd Austin en a cité un, et justement, devant une commission d'enquête récemment, mais il s'est pris les pieds dans le tapis parce qu'il a dit 25 000 femmes et enfants. Et alors, c'est très surprenant qu'un ministre américain dise ce chiffre qui est terrible. Qui...
Bah, il est pire, 25 000 femmes et enfants, ça veut dire que si on ajoute les hommes, on serait
plus de 30 000. Donc il serait pire et ça serait un lâchage en règle d'Israël. Donc soit c'est un coup de billard très compliqué pour mettre la pression sur Israël, soit plus probablement Lloyd Austin a mal lu ses fiches, parce qu'il est un peu malade en ce moment, et le Pentagone a rétropédalé en disant non, il voulait dire source à masse et bilan total. Donc on peut supposer que l'ordre de grandeur de 30 000 morts, dont peut-être il y aurait 10 000 combattants du Hamas, selon un service de renseignement américain, un cinquième, un quart du nombre global de combattants du Hamas qui est estimé entre 25 et 40 000. Donc ça ferait à peu près peut-être 20 000 civils et 10 000 combattants, ce qui est 20 000 civils de trop, évidemment. Maintenant, il faut reconnaître que agir en zone urbaine, militairement, c'est un cauchemar pour tous les soldats. Ils savent qu'ils vont tuer des civils. Et donc, ce bilan est extrêmement embarrassant pour les États-Unis. D'abord, pour la campagne électorale de Biden, puisque Biden soutient Israël. Donc, sa gauche est en train de le lâcher.
On a vu que lors des primaires, des électeurs démocrates, pour manifester leur mauvaise humeur, cochaient... Ne se prononce pas.
Dans un État, je ne sais plus si c'est le Michigan. Où il y a beaucoup d'Américains d'origine arabe, il y a eu 13% de gens qui ne se sont pas prononcés. Donc il peut perdre l'élection là-dessus, ce qui d'ailleurs est un paradoxe, parce que si sa gauche lui reproche de trop bien soutenir Israël, ça sera au profit de Trump, qui lui est un allié inconditionnel, absolu, d'Israël. Donc ce n'est pas forcément intelligent, mais c'est vrai que là, il y a une situation qui est délicate aussi pour la Maison-Blanche.
Alors Armelle Charrier, est-ce que le président des États-Unis d'Amérique n'est pas en mesure de faire entendre raison à Benjamin Netanyahou? Il demande une trêve. Hein. Alors il l'a demandé, on l'a vu dans le reportage, pour le lundi prochain. Mais surtout, ce qu'il vise, c'est le Ramadan qui commencerait le 10 mars.
Oui, mais ça, c'est toute la difficulté que rencontre Biden sur cette guerre en Israël. Évidemment, les États-Unis fournissent les armes. Parce que sans les armes et les munitions américaines, Israël n'est pas en état de mener la guerre qu'elle est en train de mener aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est que les Israéliens ne veulent pas s'arrêter. Et comment est-ce qu'un président américain arrive à tordre le bras aux Israéliens? C'est pas si facile que ça, finalement. On se rend compte que ce n'est pas si facile que ça. Même s'il y a la communauté internationale qui fait effectivement le poids derrière, même si grosso modo le débat qu'on vient d'avoir sur les chiffres donne un goût amer à plein de pays qui disent finalement une vie humaine n'égale pas une autre vie humaine, et cette guerre aujourd'hui...
Parce qu'on met en opposition le 30 000 morts et le 1200 morts.
Et le 1200.
Alors même si le ressort de chacune de ces morts n'est pas le même.
Oui, mais bien sûr, cette question, elle est fondamentale. Elle est finalement une vie israélienne ou une vie occidentale ne vaut pas une vie arabe ou une vie d'un petit pays africain ou une vie, c'est comme ça que c'est perçu. Mais à côté de ça, vous voyez que vous avez quand même des grandes lignes de fracture. Moi, il y a quelques jours, j'étais à Munich à la conférence sur la sécurité, où les Américains étaient extrêmement présents. Et en fait, finalement, il y avait le président israélien qui était là. Il y avait aussi beaucoup d'Israéliens qui étaient présents. Il y avait le premier ministre palestinien. Et il y avait aussi une représentante du Qatar pour discuter effectivement aussi de la trêve. Et on voyait bien que la question de avancer sur cette guerre, elle était fondamentale, mais la question de faire perdre la face aux Israéliens, il n'en est pas question non plus. Dans le camp occidental, Israël reste un allié fondamental. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui est tellement éruptif pour toute la société israélienne, qui le vit tellement mal, qui est tellement renvoyé à la Shoah, que forcément pour elle, ce qui se passe en Palestine, même si elle arrive à dire que c'est impossible pour la société gazaoui, on fait certainement des crimes de guerre, on n'est pas d'accord avec la possibilité de faire des crimes de guerre, mais il faut bien qu'on se sécurise. Et c'est là que est tout le problème.
Qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est-à-dire qu'il y a des Israéliens qui disent que c'est épouvantable ce qu'on inflige aux Gazaouis. On n'est pas loin de se comporter comme d'autres se sont comportés à notre égard à une certaine époque, mais c'est le prix à payer pour restaurer notre sécurité.
Vous avez un discours israélien qui est morcelé. Vous avez des personnes qui sont tout à fait dans la logique de Benjamin Netanyahou en disant « il faut aujourd'hui faire que le Hamas s'arrête complètement et s'il le faut, raser Gaza ». Vous avez des personnes qui disent on considère que Netanyahou a raison, c'est-à-dire qu'il faut qu'il s'attelle au Hamas et on ne peut pas s'arrêter pour l'instant, mais on est horrifié de ce qui se passe sur la société gazaoui et on se rend compte qu'il y a un nombre de morts et on sait qu'on sera responsable de crimes de guerre, mais il nous est arrivé quelque chose d'assez affreux qu'on est dans une circonstance particulière. Et vous avez quelques personnes qui sont, elles, effectivement, en tout à fait en désaccord avec ce qui est en train de se passer, mais qui sont peu nombreuses, qui l'écrivent. Il y a des écrivains, il y a des journalistes qui ont écrit dans un certain nombre de journaux, dont Haaretz, en disant évidemment que cette capacité aujourd'hui d'intervenir à Gaza, elle montrait la limite de l'État israélien et la capacité à un moment donné de pouvoir imaginer un demain avec les Palestiniens.
Alors justement, Georges Malbruno, question de Yvette. Quand va-t-on envoyer des casques bleus à Gaza, au moins pour témoigner de ce qu'il s'y passe ?
Ben, je pense que ce n'est pas demain la veille.
Pourquoi ?
Parce que l'ONU est divisée, et il n'y aura aucune décision prise par l'ONU. Israël n'en voudra pas, et donc non, il ne s'agit pas d'envoyer des casques bleus.
Israël, ils n'ont pas vocation à rester à Gaza. Peut-être ça non, les arrangerait d'avoir une force d'interposition.
Oui, mais en tout cas, l'ONU n'enverra pas des casques bleus à Gaza parce que je pense qu'Israël est cible de tout le monde. Donc, non, ce qu'il faut et ce qui est en jeu, c'est qu'il y a un retour de l'autorité palestinienne à Gaza, y compris ses forces de sécurité, épaulées probablement par des forces arabes, voire turques, etc. Mais les Arabes, Saoudiens, Qatariens, Égyptiens et Jordaniens disent à Blinken, lorsqu'il fait sa tournée dans le Golfe, dire aidez-nous, ils disent nous, on veut bien à la fois stabiliser Gaza, donc éventuellement envoyer des hommes aux côtés de l'autorité palestinienne et reconstruire, c'est-à-dire financer avec notre argent la reconstruction, à condition que vous, Américains, vous convainquiez vos partenaires israéliens et M. Benjamin Netanyahou d'entériner un vrai plan pour deux États, Israël et à côté la Palestine. On a vu la réponse qui a été donnée à cette proposition par Benjamin Netanyahou et son gouvernement, qui s'est assis dessus et qui a dit « pas question qu'il y ait un État palestinien ». Donc voilà, aujourd'hui on en est là, mais personne, et y compris d'ailleurs les Arabes, et y compris d'ailleurs l'autorité palestinienne, ne vont aller faire jouer les policiers à la solde d'Israël après ce qu'on vient de voir hier, parce que ça c'est un avant-goût de ce qui se passera après.
Alors, Slimane Zeghidour, est-ce qu'on peut imaginer que, sous la pression américaine et voyant quand même l'impasse dans laquelle elle s'est mise, Israël ne finisse par signer alors un cessez-le-feu ou une trêve humanitaire, notamment pour le Ramadan, le 10 mars, qui permettrait à tout le monde de souffler et de libérer quelques otages, d'ailleurs?
Alors, comme le rappelait Armal Charrier, la seule pression vraiment effective que les Américains pourraient faire, c'est de suspendre les livraisons de munitions. Israël ne pourrait pas faire la guerre plus de 8 jours sans munitions américaines. Ça, c'est le premier point. Maintenant, si les Américains peuvent obtenir, il est probable que, vu le caractère sacré du Ramadan, où on jeûne en plus, déjà les gens, c'est comme s'ils vivaient pendant le Ramadan, ils ne mangent pas. Donc, il est possible qu'une trêve soit obtenue. Mais une trêve, parce que là où les Américains et les Israéliens et Benjamin Netanyahu sont d'accord, ce sera un refus d'un cessez-le-feu définitif. Oui. Car pas plus tard que le 20 février dernier, les Américains avaient opposé leur veto pour la troisième fois à une résolution de cessez-le-feu présentée, en l'occurrence, par l'Algérie. Donc les Américains veulent des trêves ponctuelles pour que, dans chaque trêve, un contingent d'otages soit libéré, et donc faire autant de trêves que nécessaire pour que la totalité des otages soit libérée, pour ensuite avoir les coups des franches et s'attaquer au Hamas. Et cela, c'est cela que le Hamas refuse complètement. Soit un cessez-le-feu définitif que les Américains ne veulent pas encore, tout en déplorant sincèrement la mort des civils et en plaidant pour une trêve. Pour une trêve, mais pas pour un cessez-le-feu définitif.
Alors, depuis plusieurs mois maintenant, chaque prise de parole médiatique concernant le conflit israélo-palestinien est scrutée de près. Entre dénonciation du massacre à Gaza et accusation d'antisémitisme, les polémiques se multiplient. Dernier exemple en date, Dominique de Villepin, hier, a été sommé de s'expliquer sur son positionnement sur un plateau de télévision. C'est un sujet de Léa Dermidjian et Nicolas Baudry-Dasson.
Dominique de Villepin, je voudrais savoir aussi qui parle et qui j'ai devant moi. Vous n'êtes plus diplomate, vous l'avez évidemment été. Aujourd'hui, vous êtes un homme d'affaires. Je voudrais savoir comment vous gagnez votre vie.
Oh ben écoutez, de façon extrêmement simple, je suis conseiller en matière internationale.
Une interview musclée qui va tourner au bras de fer.
Je pourrais vous renvoyer la balle. Qui j'ai, moi, devant moi? À qui appartient votre chaîne?
Vous voulez dire que ceux qui nous payent ont une influence sur ce que l'on dit?
En général, on peut le supposer, oui.
Alors, qui vous paye?
Personne.
Personne ne vous paye ?
Non.
Pendant plus de 5 minutes, l'ancien Premier ministre sommait de se justifier.
La raison pour laquelle aussi je vous pose cette question, c'est que je veux simplement savoir moi-même si je fais partie en quelque sorte de votre business plan. C'est-à-dire, est-ce que le fait de parler à ce micro, est-ce que le fait d'influencer aussi les opinions dans un sens, dans un autre, avec aussi l'autorité qui est la vôtre, fait partie des conseils que vous
rendez ? Je redirai ce que j'ai dit pour la énième fois. Puisque quel business plan aujourd'hui de défendre ceux qui meurent à Gaza ? Quel business plan ? Qui aujourd'hui, puisque je viens de vous dire que la plupart des États arabes ne se moquent ou n'ont pas de parole sur ces sujets.
L'ancien Premier ministre bousculé. Dominique de Villepin et sa bonne fortune, titrait Le Monde il y a quelques jours. Cette fortune, s'interroge le journal, viendrait-elle du Qatar et de l'Arabie saoudite ? Et Le Quotidien de rappeler qu'entre 2008 et 2010, Dominique de Villepin a touché 4,2 millions d'euros pour des prestations de conseil auprès d'une riche famille saoudienne. Désormais, il ne préfère plus rendre publics les comptes de sa société.
Dominique de Villepin préfère payer chaque année la petite amende de 3 000 euros plutôt que de voir étaler dans la presse l'état de sa fortune.
Des polémiques et un conflit israélo-palestinien qui ne cesse d'enflammer un débat où chaque prise de position est sujette à caution. Des politiques mises en cause dans les médias et inversement. Hier, la polémique est arrivée à l'Assemblée nationale lors d'une audition pour l'attribution des fréquences télé. Le député Émeric Caron interpelle le directeur général de CNews.
Est-ce que vous connaissez le nombre d'enfants, de femmes et d'hommes qui ont été tués par l'armée israélienne à Gaza depuis le 8 octobre? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous le donner?
Je ne connais pas le nombre exact. Vous pouvez me le donner?
Je suis surpris que vous ne connaissiez pas ce chiffre en tant que directeur de la rédaction de CNews, d'autant qu'il s'affiche en une de Libération ce matin. Donc j'apprends que vous qui dirigez une chaîne d'infos, vous ne lisez pas la presse.
Ni vous ni moi n'avons les réels chiffres de ce qui se passe à Gaza, d'accord ?
Cette une, justement, est-elle aussi au cœur d'une bataille ? Car 30 000, c'est le bilan communiqué par le Hamas. Sur les réseaux sociaux, l'ambassade d'Israël en France le rappelle brutalement.
Consterné de constater qu'un journal comme Libération se fait le porte-voix d'un mouvement terroriste islamiste en faisant de sa une du 29 février 2024 un outil de propagande anti-israélienne.
La directrice adjointe de Libération affirme que des sources médicales et militaires ont permis au journal de recouper ce chiffre. Elle regrette la polarisation du débat.
Avec les réseaux sociaux, font qu'il y a une caisse de résonance plus forte qu'autrefois, ça c'est vrai. Et puis c'est vrai que dans le monde entier, une espèce de polarisation, d'hystérisation, il y a la guerre en Ukraine, il y a de plus en plus de régimes autoritaires qui attisent les haines entre les communautés, les gens, les âges, les générations, les cultures. Ce qui fait qu'en effet, c'est vrai que c'est un boulot compliqué en ce moment, journaliste. Et sur le conflit israélo-palestinien, c'est particulièrement compliqué. Mais je pense qu'il faut rester droit dans ses bottes. Il faut continuer à faire notre boulot du mieux possible. Et vraiment, c'est ce qu'on essaye de faire à Libé.
La difficulté d'informer. Hier, le chef du Pentagone a affirmé que plus de 25 000 femmes et enfants palestiniens auraient été tués dans la bande de Gaza.
Alors, question téléspectateur Yves Bourdillon. Que reproche-t-on exactement à Dominique de Villepin ?
Alors, semble-t-il, il y a deux aspects. Celui qui a été qui est apparu dans l'émission d'hier, c'est-à-dire il a tendu un peu le bâton pour se faire battre, puisqu'il a demandé à la journaliste qui vous paye, et elle lui a répondu assez logiquement, et vous qui vous paye.
Parce que RMC, c'est Patrick Drahi, voilà. Et d'origine juive, et donc dit, voilà. Vous avez un prêt, puisque vous travaillez pour les proches, puisque vous travaillez pour les Israéliens, vous avez un billet proche pro-israélien.
Il y a un fort sous-entendu de sa part, et évidemment, elle a eu raison de lui dire, et vous qui vous payez, parce qu'on soupçonne que le Qatar finance son business.
Et c'était donc, pas très adroit, en fait, de la part de.
Non, il s'est piégé.
Pas poser cette question.
Il s'est piégé tout seul d'une manière assez vertigineuse. Mais ça, c'est bon, c'est qui le paye ? Et au passage, ça pose quand même la question de l'opacité d'abord de son activité et aussi du fait que quand un ancien dirigeant dit « je donne des conseils », j'ai toujours du mal à comprendre la limite entre ça et le trafic d'influence. C'est-à-dire que la frontière est un peu ténue. Quelqu'un qui a un carnet d'adresses peut donner des conseils, mais ça va assez vite vers des choses un peu plus discutables.
Et puis alors, c'est-à-dire qu'il va utiliser ses relais dans les médias pour porter la parole de celui qui le paye.
Enfin, en tout cas, tout ça.
On peut se poser la question.
On peut se poser la question. Et il y a le deuxième aspect qui est qu'on lui a reproché quand il avait fait une déclaration il y a quelques mois dans l'émission Quotidien où il disait il y a un réseau financier mondial dans les médias et la culture. C'est une formule qui était utilisée avec des accents antisémites dans les années 30. Donc on l'a accusé de cela et il s'en est, il a contesté en disant mais pas du tout. Ce dont on peut lui donner acte, le problème étant qu'il en remet un peu là-dessus depuis lors. C'est-à-dire que ce n'est pas très clair quand même son positionnement.
Alors, Georges Malbrun, vous avez écrit vous sur comment le Qatar arrive à, en offrant des montres. Hein, vous l'avez très bien décrit, puis un peu plus, puis un peu plus, comment il arrive à avoir de l'influence en Occident. On ne crache pas dans la main de ceux qui vous payent. Donc, Dominique de Villepin, s'il est prouvé, comme le dit Le Monde, qu'il a des contrats avec l'Arabie Saoudite, avec le Qatar, on ne crache pas dans la main de ceux-ci.
Bon, oui, je connais bien le dossier, parce qu'on a écrit, effectivement. Que Dominique de Villepin ait été proche du Qatar depuis 2003, 2004, 2005, c'est sûr. Hein, c'est sûr. Il était proche de Shera Mayassa, la sœur de l'émir, qui est responsable des activités culturelles. Ensuite, le nouvel émir, le fils de l'ancien, a pris ses distances. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Dominique de Villepin n'a pas forcément des intérêts énormes avec le Qatar. Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que...
Pourquoi il ne veut pas révéler ses clients? Pourquoi préfère-t-il payer l'amende plutôt que de dire pour qui il travaille? BFM, c'est transparent, on sait pour qui...
Il y a une part d'opacité, mais je ne pense pas... Il y a un autre tort que certains font à Dominique de Villepin, c'est qu'il incarne la tradition un peu gaulo-mitterrandienne de la politique extérieure française, notamment au Moyen-Orient, et qui gêne parce qu'il rappelle l'histoire, il rappelle l'occupation israélienne, etc., etc. Donc il gêne et il se prend en contrepartie des critiques sévères. Mais est-ce que Dominique de Villepin, justement, prend ses positions aujourd'hui, qui sont celles d'ailleurs d'avant, parce que le Qatar lui a filé un contrat, etc., ou l'Arabie Saoudite, qui sont d'ailleurs... L'Arabie Saoudite de Mohamed Bin Salman est quasiment alliée avec Israël. Donc, je ne crois pas.
C'est un mauvais procès.
C'est un faux procès qu'on lui fait. C'est un faux procès. Il a eu, je pense, des déclarations maladroites sur les États-Unis, la culture, etc. Il manque probablement, effectivement, à la transparence, mais le reste... Non, Dominique de Villepin, quand on l'entend, on entend une profondeur d'analyse qui, hélas, manque au débat.
Armel Charrier, est-ce que ce conflit rend fou? On en vient à soupçonner un ancien Premier ministre de la France parce qu'il défend la cause, le drame des Palestiniens. On le soupçonne d'avoir un agenda. Et on entendait Alexandra Schwarzbrod du journal Libération dire c'est très difficile aujourd'hui de faire notre métier parce qu'on est toujours accusé soit d'être pro-israélien, soit d'être pro-palestinien. Est-ce que vous le ressentez, ça?
Oui, on le ressent fortement. On le ressent fortement sur le conflit israélo-palestinien. Mais j'allais étendre un peu plus loin. C'est-à-dire que je pense aussi qu'on est dans une société qui devient de plus en plus clivée et qu'il n'y a pas que le conflit israélo-palestinien. Quand on est journaliste aujourd'hui, quand on doit parler, on a une capacité à un moment donné à les voir des deux côtés. C'est la différence qu'on a avec un communicant, c'est la différence qu'on a avec un lobbyiste, c'est la différence qu'on a à voir avec un politique, c'est que nous, notre métier est de donner de l'information. Et que pour donner de l'information, il faut savoir ce qui se passe d'un côté et il faut savoir ce qui se passe de l'autre côté. Ensuite, les gens, ils se font leur opinion. Et c'est vrai que sur le conflit israélo-palestinien, vous avez en fait aujourd'hui une France qui reste coupée parce que vous avez une société juive qui est extrêmement importante et vous avez une société musulmane qui reste aussi extraordinairement importante. Et que les deux sont fondamentalement extraordinairement blessés. Vous avez une vraie fracture mémorielle qui est mise en place parce que vous avez d'un côté les réminiscences de la Shoah et vous avez d'un autre côté les réminiscences de la Nakba. Donc vous touchez à la fragilité de l'humain. Et en fait, du coup, ça veut dire qu'il faut avoir énormément de délicatesse pour aller discuter des conditions des uns et des conditions de l'autre. Ça demande de la délicatesse, ça demande du temps et ça demande de la nuance. À l'heure des réseaux sociaux, ce dont je vous parle est extrêmement rare. Donc nous avons la capacité, parce qu'on est dans le service public, que ce soit C'est dans l'air, que ce soit sur France Info, que ce soit sur France 24 ou dans d'autres émissions, on a ces capacités-là, TV5 Monde aussi.
Mais, les Échos, le Figaro.
Alors, voilà, mais, enfin, je veux dire, mais on a toute une capacité aujourd'hui de presse qui permet d'avoir en fait un peu cette réduction, mais ça se limite aujourd'hui. Et notre société est une société qui sent, j'allais dire, la poudre, qui sent la guerre. On l'a vu sur la guerre en Ukraine, on le voit sur le conflit Israël-Palestine, on le voit sur d'autres sujets, on sent effectivement cette difficulté de s'exprimer aujourd'hui.
Slimane Zeghidour, est-ce que le drame aussi dans ce conflit, parce que Armelle Charrier le rappelait, la France a la plus grande communauté arabe et la plus grande communauté juive d'Europe, est-ce que chacun malheureusement est renvoyé à sa communauté, est essentialisé comme on dit?
Oui, je crois que s'agissant des rapports avec les Juifs et les Arabes dans le sens générique du terme, il y a une exception française qui est due à l'histoire de la France avec ces deux minorités. À cause de Vichy pour les Juifs et à cause de la guerre d'Algérie pour les Arabes, il y a comme une difficulté en France à appliquer des critères universels aux Juifs et aux Arabes, c'est-à-dire en les jugeant seulement sur leurs actes, qu'ils soient des États, des associations ou des individus. Et cette difficulté, on la voit dans toute l'histoire de France. Par exemple, dès 1870, quand la République, la Troisième République est établie, en Algérie, elle donne la citoyenneté pleine et entière à la petite minorité juive de 25 000 Algériens, mais pas aux musulmans. Et ensuite, pendant la guerre des Six Jours, où Israël avait remporté une victoire éclatante contre les armées arabes, on a vu ici des nostalgiques de l'Algérie applaudir la victoire israélienne comme si c'était une victoire par procuration pour eux, une sorte de revanche contre l'arabe. Et jusqu'à maintenant, il y a cette difficulté à prendre une position sur ce problème sur la base de simples critères universels dont nous flattons d'incarner la permanence.
Mais Georges Malbruno, c'est même pire que ça. Tous les Français, dans toutes les familles de France, vous mettez sur la table, dans les déjeuners du dimanche, vous posez la question du conflit israélo-palestinien, ça part en vrille. Les gens, tous les Français ont des positions très tranchées là-dessus.
Alors que juste, oui, mais je pense que là...
Comment vous l'expliquez?
Je l'explique par le fait qu'on demande, et nous sommes un peu responsables, nous autres journalistes, et aux gens de prendre parti. Vous soutenez qui? Les Palestiniens ou les Israéliens? Non, on ne doit pas prendre parti. On doit exposer les faits. Et vous disiez tout à l'heure, moi je dis souvent quand je parle, je fais des conférences, etc. Pour bien parler de ce conflit, il faut connaître l'histoire, hein, l'histoire ancienne, hein, la fin du 19e siècle déjà, les pogroms en Europe de l'Est, les premiers juifs qui émigrent. Et après, il faut connaître la géographie. Connaître la géographie, ça veut dire aller sur le terrain. Et lorsque vous avez ces deux éléments, eh bien vous pouvez vous faire un jugement. Mais pas un jugement qui soit un jugement partial. Mais c'est là le danger. On tombe parce que les médias aussi, quand même, j'ai un peu vieilli, ça fait 30 ans que je couvre ce conflit. Je trouve qu'on a un peu, aujourd'hui, les médias et certains responsables politiques, une vision anhistorique de ce conflit. C'est-à-dire, on est dans l'émotion pure. Le 7 octobre, effectivement, il y a eu un massacre terroriste.
Et vous réagissez.
On réagit et on ne doit pas parler de l'histoire de ce conflit. Mmh. On doit en parler aussi. Donc attention de ne pas... Il faut condamner le 7 octobre les attaques terroristes, mais il faut contextualiser. Sinon, bah justement, on est dans l'émotion et on prend parti. Et là, c'est la foire d'empoigne et le fossé qui se creuse en France entre communautés.
Et c'est l'émotion sur cette qui difficulté fait qu'on d'informer.
Le soutien là, c'est toujours au détriment de l'autre.
Ouais, sur cette difficulté d'informer, précisément sur ce conflit, c'est plus facile de parler de la guerre en Ukraine que de parler de... Vous qui couvrez les deux. Hein.
C'est pas facile de parler de la guerre en Ukraine parce qu'il y a des relais d'influence de Moscou qui sont extrêmement agressifs. Donc ce n'est pas facile, mais le conflit israélo-palestinien est certainement évidemment le plus sensible de tous, puisque dans toutes les zones du monde que l'on
vos
regarde...
Vos articles ont réagi sans un coup en disant vous êtes pro-israélien, un coup en disant vous êtes pro-palestin.
Généralement, on reçoit du feu des deux côtés, donc on est traité d'agent sioniste ou de pro-palestinien, et effectivement, la difficulté, comme vous l'évoquiez, c'est qu'il faut essayer de présenter les points de vue de toutes les parties, de mettre le contexte historique et géographique, et de laisser quand même le téléspectateur se faire sa propre opinion en fonction de sa propre histoire, de ses émotions, parce que l'objectivité n'existe pas. En fait, l'honnêteté existe sur le plan journalistique, de présenter...
On a toujours un biais, voilà, des lunettes...
Mais on a tous une histoire. Donc là, c'est un sujet extrêmement sensible, parce qu'en plus, il se rajoute un élément qui est quand même l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'il est parfaitement légitime de critiquer la politique israélienne sans être antisémite, il est même légitime, selon moi, de critiquer l'existence d'Israël sans être antisémite. Il y a même des juifs qui, d'ailleurs, en exhumant un vieux paragraphe, disent que ce n'est pas possible de créer un État juif dans cet endroit-là. Cela dit, il faut reconnaître, si, par exemple, livrons-nous une expérience de la pensée, si les Israéliens, en 1948, avaient été non pas de confession juive, mais musulmanes, est-ce que, 75 ans plus tard, il y aurait des manifestations partout dans le monde ? Non, peut-être qu'on dirait c'est des musulmans qui ont expulsé d'autres musulmans, comme il y a eu des guerres civiles dans le monde arabe, et on passe à autre chose. Il y aurait une indifférence dans certains milieux. Donc je ne dis pas que quand on critique Israël, on est antisémite, mais il y a quand même un fort courant antisémite dans la critique d'Israël.
Armel Charrier, le jusqu'au boutisme de Netanyahou et les exactions de son armée suscitent-elles une recrudescence de l'antisémitisme ? Est-ce que ce qu'ils font là-bas a des répercussions sur les Français de confession juive en France ?
Forcément, ça a des répercussions, pas forcément qu'en France d'ailleurs, hein, je pense sur un ensemble d'autres pays, parce qu'il y a une volonté d'aller jusqu'au bout de Netanyahou, qui aujourd'hui amène à donner la mort, et c'est vrai qu'on en a parlé là. Alors il y a toujours cette capacité de comprendre qu'il y a eu à la base une attaque terroriste et que derrière il y a une organisation qui s'est mise en place, mais une fois que vous avez passé ce cap-là, la longueur en fait de cette attaque fait que du coup on ne voit plus forcément les juifs comme victimes. Et c'est vrai ce que Georges a souligné, la notion d'histoire, elle est absolument capitale, parce que vous avez l'histoire sur l'origine du conflit, vous avez l'histoire de la Shoah, mais vous avez l'histoire de la victimisation par exemple que vous avez dans du peuple juif. Et par exemple dernièrement j'ai revisité des synagogues qui étaient à Prague, où il y a aussi toute une histoire, toute une explication de comment on est arrivé à mettre en place la Shoah, comment justement on est arrivé à stigmatiser le peuple juif. Et une fois qu'on a compris ça, vous comprenez en fait la peur viscérale juive d'être ostracisée, la peur viscérale juive de ne pas être en capacité d'avoir une vie tranquille et un moment tranquille. Mais si vous n'avez pas ça en tête, si vous n'êtes pas pourvu de tous ces éléments, qui ça forcément s'appelle la culture, et bien dans ces cas-là, vous restez sur l'instant immédiat, sur l'émotion dont vous parlez, et une fois qu'on est sur l'émotion, on peut rentrer dans l'acte antisémite.
Alors justement, pour essayer de mieux comprendre, on l'a souvent rappelé sur ce plateau, l'Iran est un acteur important dans ce conflit, notamment en soutenant le Hezbollah libanais et les rebelles houthis du Yémen. Les Iraniens sont appelés aux urnes pour les élections législatives. S'il ne fait aucun doute que les conservateurs seront confortés au pouvoir, le niveau de l'abstention sera un bon indicateur de la popularité du régime. Sujet de Nicolas Bidart et Benoît Thébault.
Il a donné l'exemple à suivre en ce jour d'élection parlementaire. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, était le premier à voter dans son pays. Et parmi ses partisans, la consigne semble être bien passée.
Le guide suprême a déclaré que la participation aux élections est une obligation. C'est obligatoire pour tout le monde. Tout comme la prière, il est également obligatoire de participer aux élections.
Sans surprise, le bloc conservateur devrait remporter la majorité des suffrages, faute d'adversaires, le camp des réformateurs ayant boycotté le scrutin ou vu ses candidatures écartées. De quoi dissuader encore un peu plus les autres citoyens d'aller voter.
Le plus grand problème avec cette élection, c'est le manque de confiance des gens dans l'efficacité du Parlement.
Les précédents candidats avaient fait des promesses, mais rien n'a changé. Il suffit de regarder le bazar et les enfants pauvres qui vivent dans les rues. Nous avons besoin de politiciens qui agissent et pas seulement qui fassent campagne.
Une défiance exacerbée depuis plus d'un an et demi. 13 septembre 2022, une jeune femme iranienne, Mahsa Amini, 22 ans, est arrêtée par la police des mœurs pour un port du voile jugé non réglementaire. Trois jours plus tard, elle décède dans des circonstances obscures. Un soulèvement d'ampleur envers le pouvoir s'empare de tout le pays. Des manifestantes retirent leur voile, pourtant obligatoire dans l'espace public, et certains y sont même brûlés. Le régime théocrate tremble et réprime dans le sang. Selon plusieurs ONG, 20 000 arrestations, 500 morts en manifestation et des dizaines d'exécutions en place publique.
Ceux qui ont été impliqués dans ce chaos et ceux qui ont créé l'insécurité mettent en danger la vie et les biens des gens dans la société. Ils doivent être traduits en justice, aussi bien ceux qui les ont provoqués que ceux qui les ont supervisés. Et il y a aussi des gens qui ont été négligents et influencés. C'est une autre discussion, mais ceux qui ont pris part aux émeutes doivent être traités fermement. C'est la demande du peuple.
La République islamique d'Iran résiste à la contestation populaire et étend même son influence dans la région, notamment depuis le 7 octobre. En rencontrant par exemple le chef du bureau politique du Hamas par l'intermédiaire du ministre iranien des Affaires étrangères le mois dernier au Qatar. Ou encore en continuant de soutenir un ennemi d'Israël, le Hezbollah libanais, et son chef Hassan Nasrallah.
Nous sommes l'axe de la résistance. L'attaque du Hamas a mis en évidence la véritable identité de tous nos ennemis. Ils sont hypocrites. Ils n'arrêtent pas de faire de fausses accusations au sujet de la résistance régionale.
En mer Rouge, l'Iran arme aussi les rebelles houthis, hostiles à Israël, qui s'en prennent à des navires commerciaux. Ce qui pousse Washington à réagir. Les États-Unis détruisent des drones et missiles houthis et désignent un responsable.
Il y a peu, nous avons dû faire face à l'attaque la plus importante. Des drones kamikazes. Ces attaques ont été soutenues et encouragées par l'Iran en termes de technologie, d'équipement, de renseignement et d'information.
Une confrontation qui inquiète de plus en plus l'Occident et notamment l'Agence internationale de l'énergie atomique. Selon elle, Téhéran disposerait d'assez d'uranium enrichi pour produire 4 bombes atomiques.
Question téléspectateur Georges Malbruno. Le peuple iranien peut-il changer le régime du pays par son vote ?
Alors, théoriquement, oui, sauf que le peuple iranien n'a plus confiance dans le régime et que lorsqu'il vote... Avant, eh bien, il y a un organisme qui est un peu notre conseil constitutionnel qui dit « Vous, monsieur, vous êtes candidat, mais vous n'êtes pas islamiquement correct, donc vous êtes écarté ». Donc, on se retrouve avec des candidats qui, dans le passé récent, étaient, il y avait les réformateurs qui voulaient une certaine dose de libéralisation avec lesquels on a signé l'accord nucléaire de 2015, et puis des ultra-conservateurs. Eh bien, depuis quelques années, les réformateurs ont été évincés parce qu'il y a eu le... Après le retrait américain de l'accord nucléaire, le régime a eu peur et le régime s'est recroquevillé sur un noyau dur ultra-conservateur. On a vu tout à l'heure le président Raisi qui en est l'émanation. Et à partir de là, le régime s'est calcifié autour de ce noyau dur et a cadenassé toutes les organisations, tous les centres. Et les votes, les élections comme celle d'aujourd'hui, sont jouées d'avance puisque tous les candidats qui, non, sans être opposés au régime, puisqu'ils ne peuvent pas l'être, puisqu'ils n'ont pas passé le filtre du Conseil des gardiens, mais tous les autres, même réformistes, qui voulaient réformer un petit peu le système, ont été écartés. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un régime qui a maté la contestation et qui est focalisé sur l'avenir du monsieur qu'on a vu voter tout à l'heure, la succession d'Ali Khamenei, ce monsieur qui vote en général à 8h du matin lorsqu'il y a une élection. Il a 85 ans et donc, eh bien, le régime veut verrouiller sa succession parce qu'il sait que là, il y aura un moment clé pour l'histoire de l'Iran.
Et Slimane Zeghidour, ça fait 45 ans qu'ils sont au pouvoir, les Mollahs. Quel horizon ils offrent à leur peuple? Comment les communistes, ils offraient le paradis rouge. Eux, ils veulent offrir quoi? Quel est le ressort par lequel ils comptent dire « Nous sommes la solution et l'avenir de ce pays ».
Pas du tout.
Vous savez, l'Iran, c'est une sorte d'Union soviétique avec une étatisation à outrance de l'économie, de tout le système. Sauf que c'est une Union soviétique musulmane chiite. Mais comme à l'époque soviétique et comme d'une certaine manière dans la Russie d'aujourd'hui, excusez-moi cette comparaison, c'est que le régime essaie d'inculquer au peuple l'idée que la gloire nationale, la fierté nationale est supérieure au confort et au progrès social.
Et c'est quoi la gloire alors?
La gloire, c'est de reprendre la fonction qui, dans le discours, a toujours été celle de l'Iran, c'est-à-dire une dimension impériale.
Oui.
Que depuis 2500 ans, l'Iran, comme la Turquie, comme la Russie, comme les grands empires, donc, se sont investis d'une mission qui dépasse ses propres
frontières. Et ça passe par la bombe atomique. Est-ce qu'on pourrait dire la bombe avant le pain?
D'une certaine manière, oui. Moi, j'ai été, la dernière fois où j'ai été en Iran, j'ai été invité par des monarchistes. Un militaire officier qui m'a invité chez lui et sa femme, parlant de la maîtrise de l'atome, de la fission de l'atome civil, m'a dit, pour ce projet, je la cite, je vendrai ma dernière culotte pour le financer. C'est pour vous dire, ils ont investi une espèce de fierté, une espèce de défi. En plus, ils vous disent, nous sommes adossés à l'Est, à une puissance nucléaire, le Pakistan, qui lui-même s'adosse à une puissance nucléaire, l'Inde, qui s'appuie sur la Chine, qui a derrière la Corée du Nord. Quatre puissances nucléaires.
Donc c'est la nation avant Dieu, quand même.
Israël devant. Donc sur ce plan-là, le régime joue la fierté nationale.
Et le nationalisme.
Oui.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Armel Charrier, Bernard qui s'interroge, les Palestiniens ne vivent-ils que d'aide alimentaire?
Ah, aujourd'hui, il ne leur reste pas grand-chose, effectivement. C'est là la complexité de des bombardements et de l'attaque fait que, justement, on est à un niveau de malnutrition qu'on n'a quasiment jamais vu. On a un rapport qui rend, effectivement, sur les enfants en disant qu'un sur six, aujourd'hui, était dans la malnutrition. Et j'allais dire, ils ne vivent pas d'aide humanitaire. C'est que, du coup, ils sont exposés...
Le nombre de camions a été divisé par deux.
Hein. Voilà, ils sont exposés à la famine.
Jean-Michel, dans les Landes, que faisaient des soldats israéliens armés aux abords d'une distribution humanitaire? Alors, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Apparemment, ils essayaient peut-être d'organiser le convoi.
Oui. Mais c'est une zone militaire.
C'est une zone de guerre.
C'est une zone de guerre. Il n'y avait que des soldats israéliens. Il ne pouvait y avoir que des soldats israéliens et pas des civils.
Parce qu'ils ne veulent pas que la police du Hamas, justement, essaie de contrôler ça.
C'est ça.
Ils sont présents pour ça.
Et même, ils n'ont même pas prévenu l'UNRWA, par exemple.
Jean-Pierre, dans le Bas-Rhin, a-t-on des nouvelles des otages encore détenus par le Hamas? Il y a 136 personnes manquantes.
Oui,
il y a toutes des... ne sont peut-être plus vivantes.
Alors... Le Hamas a déclaré qu'un certain nombre pourraient avoir été tués dans des bombardements. Est-ce qu'il faut le croire? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est au cœur des négociations qui ont lieu depuis des mois, hein, pour la libération de ces otages. Voilà. Et on revient au plan dont on a parlé de trêve sur 45 jours. Il y aurait un otage israélien qui serait libéré contre une dizaine de détenus palestiniens en Israël qui seraient libérés au cours de ces 40 jours. Voilà. Et ça reste une question, évidemment, c'est central pour Israël parce que comme vous l'avez dit, Benjamin Netanyahou en a fait un des objectifs de guerre. Et pour le Hamas, comme il en détient 130, en particulier à la fin des otages qui ont une très forte valeur pour lui, qui sont des généraux ou des militaires israéliens, ceux-là auront une très forte valeur, je dirais, marchande et politique. Et ça permet de faire un saut sur le... Là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Là, on rentrera dans le politique parce qu'en échange, le Hamas réclame la libération de détenus palestiniens, de personnalités politiques comme Marwan Barghouti, comme un ancien palestinien. Dire voilà, vous aurez vos gros poissons militaires lorsque vous libérez ces personnalités-là, Barghouti, qui pourraient justement... Et là, évidemment, les Israéliens disent pas, mais...
Qui n'est pas un islamiste.
Donc, cette question est centrale. pour les Israéliens et pour les Palestiniens aussi. Et mais je, encore une fois, je pense que on va s'acheminer vers une trêve. Une première trêve, je pense, au moment du Ramadan.
Yves Bourdillon, le résultat des élections en Iran peut-il changer la politique de soutien du pays, de l'Iran, au Hamas? Puisque l'Iran soutient le Hamas. Hein.
Certainement pas. D'abord parce que le résultat est complètement verrouillé, puisque ça a été évoqué, les modérés, ce qu'on appelle les réformateurs, je préfère le terme modéré, ont boycotté les élections, puisque tous leurs candidats avaient déjà été invalidés en 2020. Et là, encore plus, il y a eu 30 000 candidats, je crois, et la moitié a été invalidée par, de manière arbitraire. Donc eux, ils ne participent pas aux élections, à part une poignée, une trentaine, qui servent un peu d'alibi. Et puis, à part cela, en fait, il y a deux blocs. Le bloc principaliste, conservateur, et un bloc ultra-conservateur. Et de toute façon, tout le monde est d'accord. Tout le monde défend le régime islamiste et la politique étrangère d'ingérence assez agressive au Yémen.
Le Hamas.
Voilà.
Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette situation complexe à Gaza. Vous restez avec nous tout de suite. C'est à vous avec Anne-Elisabeth Lemoine. Bonsoir Anne-Elisabeth, au programme ce soir.
Bonsoir Axel. 4, 0, 10, 22, 19. Ce n'est pas les numéros gagnants du loto. C'est le portrait en chiffres de la nouvelle tête de liste de la majorité présidentielle aux européennes que nous propose ce soir dans son édito Patrick Cohen. Tout ça devant l'intéressé, Valérie Ayer, désignée officiellement hier, est notre invitée, elle qui a seulement 100 jours pour se faire connaître et pour faire mieux que Jordan Bardella, pour l'instant favori des sondages pour le Rassemblement national.
Voilà, et c'est à suivre. Et donc, ce ne sont pas les résultats du loto. Bonne soirée sur France 5, on se retrouve demain pour un nouveau C'est dans l'air.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.